Bonjour, je suis Jessica et aujourd'hui je vous présente le bilan après un an de Covid-19. Et je vous parle un peu de mes propres réflexions, donc comment moi j'ai vécu cette période.
Dure semaine d'incertitude, l'enquête est formelle. Le virus est apparu ici, le mois dernier, très précisément dans ce marché de gros de fruits de mer à Wuhan, dans le centre de la Chine. Une pneumonie virale de la famille des coronavirus.
Donc, à la fin du décembre 2019, était la première fois que les médias ont annoncé ce virus mystérieux apparu en Chine. Ici en Europe, ce virus inconnu paraissait d'être si loin et personne ne pouvait s'imaginer les conséquences présentes, même encore un an après l'apparition. Parce que tant qu'on n'est pas concerné d'un problème, on ne s'inquiète pas. Mais alors, le 7 janvier, il y avait le premier mort en Chine à cause de cette maladie respiratoire. Écoutons peut-être ensemble un extrait du journal de cette période.
Vous êtes sur RTL.
Le journal, c'est avec vous, Olivier Bois. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
L'OMS ne déclare pas encore l'urgence internationale pour le coronavirus.
Ouais, cela pourrait venir, mais c'est trop tôt. Voilà ce que dit l'Organisation mondiale de la santé.
Mais dès ce moment, le Covid-19 s'est rapidement propagé. D'abord dans toute la Chine, puis à l'étranger, en provoquant une épidémie mondiale. Finalement, il y avait la première infection avec le virus en France. Nous étions tous témoins d'un nombre alarmant de morts et d'infectés. Pourtant, beaucoup de gens ont ignoré les effets de cette pandémie, surtout aux États-Unis. Les citoyens ont poursuivi leurs activités quotidiennes, alors que c'était sans doute que ce virus provoque une maladie parfois mortelle et que les gens se transmettent ce virus. Dès ce moment, nous n'étions plus les témoins de cette maladie, mais les concernés. De plus en plus, je pensais d'avoir réalisé ce qui est une pandémie et ses conséquences, mais je me suis trompée comme beaucoup d'autres qui ont sous-estimé la dimension de l'épidémie. En mars, l'Italie a annoncé plus de morts qu'en Chine. Une inquiétude et peur s'est installée parmi les gens. Des acheteurs paniqués vidaient les rayons autour du monde. Jamais je ne pouvais m'imaginer des gens se combattant pour du papier de toilette. Jamais je ne pouvais m'imaginer des gens acheter trois fois plus qu'ils auraient besoin. Face au nombre mort et tous ces gens en panique, provoqués par une peur et incertitude, je me sentais comme dans un mauvais rêve, qui semblait si irréaliste, comme je n'avais jamais expérimenté quelque chose de semblable dans toute ma vie entière. Alors, le 15 mars, je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Le Luxembourg a eu son premier lockdown qui était prévu pour 2 semaines. Bien sûr, je me suis réjouie, comme ce jour était mon anniversaire et j'étais contente de ne pas devoir aller à l'école. Les magasins devaient fermer, ainsi que les restaurants qui devaient fermer leurs portes à minuit. Le gouvernement a ordonné que les gens limitent leurs contacts sociaux en espérant de pouvoir contrôler la propagation rapide du Covid. Au début, beaucoup de jeunes se sont imaginés le lockdown comme des vacances de 2 semaines. Mais alors, le confinement a été prolongé. Le ministre de l'Éducation a imposé un nouveau système qui permettait de poursuivre ses cours à la maison, le homeschooling. Je ne pouvais jamais m'imaginer comme interdit d'aller à l'école ou que c'est exigé de réduire ses contacts sociaux. Au début, tous les élèves devaient se débrouiller seuls avec les nouvelles technologies et l'application Teams. Certains professeurs qui avaient déjà de bonnes connaissances dans ce domaine ne comprenaient pas qu'au début, nous n'avons pas immédiatement compris toutes les fonctions de Teams. Nous étions un peu démunis. Bien sûr, le principe de l'école à la maison est 100 fois mieux que pas d'éducation du tout. Mais je me pose toujours la question si cette méthode nous prépare aussi bien aux examens que les cours à l'école. Souvent, j'avais des problèmes avec l'Internet et la connexion était interrompue. Pendant cette interruption, je ne pouvais pas poursuivre le cours scolaire, donc j'ai souvent raté de la matière scolaire importante. Je me rends compte qu'au début du confinement, les professeurs devaient aussi se débrouiller avec les nouvelles méthodes, mais de mon point de vue, le homeschooling n'était pas bien organisé. Parfois, nous avons eu beaucoup trop de travail pour les heures prévues dans l'horaire, et parfois, nous n'avions pas cours du tout. Au printemps, ce principe me permettait de poursuivre mon cours dehors et de profiter du soleil. Voilà un avantage du homeschooling, de mon point de vue. Actuellement, les classes de 4e à 2e vont une semaine sur deux à l'école. Les années précédentes, je me suis parfois plainte d'aller à l'école, mais maintenant, j'ai compris que c'est une opportunité d'avoir de l'éducation à l'école. À mon avis, on se concentre beaucoup plus à l'école, on comprend mieux la matière et surtout, on peut voir ses amis. Je ne me sens pas bien préparée pour les examens l'année prochaine. Et avoir mes amis autour de moi était évident pour moi. Mais la pandémie m'a montré que la nature est plus forte que l'humain et que le contact social est aussi une opportunité dont la plupart des gens ne connaissent pas la valeur. Le Covid-19 nous a tout pris un peu de notre qualité de vie. Au week-end, on ne peut plus fêter avec ses amis, on ne peut plus vraiment s'amuser, il n'y a plus de concerts et c'est presque impossible de voyager. Jusqu'en octobre, il y avait que peu de restrictions. Un maximum de 10 personnes pouvaient se rassembler. Pendant ce temps, beaucoup de gens étaient mécontents avec cette décision car on leur a volé un peu de leur liberté. Alors, à la fin d'octobre, le nombre de personnes a été limité sur 4. Le secteur d'Oresquin ainsi que les cinémas ou les piscines devaient fermer leurs portes. Comme beaucoup d'autres, j'avais de plus en plus le sentiment de perdre peu à peu ma qualité de vie. Parfois, je me sentais vraiment seule. Je n'étais pas la seule. Pour beaucoup de gens, c'est une situation difficile, souvent marquée par la solitude. Le confinement a aussi provoqué de pressions psychologiques chez certaines personnes. Beaucoup de salariés étaient dans le chômage partiel ou en congé pour raisons familiales. Ils ont gagné moins d'argent. De plus, ce n'est pas certain si l'entreprise survit le confinement ou s'il serait un jour faillite. Ils ne pouvaient plus se rencontrer avec leurs amis dans les restaurants. Voilà pourquoi certains développaient une dépression. J'ai parlé avec un salarié qui veut rester anonyme et qui a vécu cette situation difficile.
Bonjour, j'ai 48 ans et j'ai travaillé comme vendeur dans une entreprise. Avant cette pandémie, j'ai exercé ce métier avec passion, mais cette pandémie avait un effet vraiment négatif sur ma santé mentale. Au début du confinement, j'ai eu du congé pour raisons familiales. Je n'ai pas travaillé du tout pendant 3 semaines. En effet, je n'avais pas vraiment peur de perdre mon emploi à cause d'une faillite, mais quand même, la situation a été difficile pour moi et j'ai éprouvé des pressions psychologiques. Avant l'apparition du virus, j'ai souvent rencontré mes amis. Nous avons parfois bu un coup ou avant déjeuner. Nous avons déjeuné chaque dimanche ensemble. Je ne peux pas vraiment identifier l'élément déclencheur de ma maladie mentale, mais j'ai développé une dépression. Il y a maintenant 7 semaines que je ne peux plus travailler et j'envisage dans le proche futur de faire une thérapie à l'étranger pendant 8 semaines.
Alors, pendant que moi j'ai pensé à tout ce que je ne pouvais plus faire, le confinement provoquait des problèmes beaucoup plus graves, comme des maladies mentales ou des faillites. De plus, il y avait de nombreux affectés dans les hôpitaux surchargés avec un destin inconnu. Les uns sont décédés, les autres ont survécu avec quelques symptômes. Écoutons maintenant les expériences d'un garçon qui s'est infecté.
Bonjour, je m'appelle Freddy, j'ai 20 ans et moi-même j'ai eu le virus en décembre l'année passée. Pour moi, les symptômes étaient plus graves que je m'imaginais. Comme je suis encore jeune et sportif, j'ai toujours pensé que le virus ne serait pas un grand obstacle pour ma santé. J'avais mal partout et j'étais vraiment fatigué. J'ai dormi presque toute la journée. Le pire à mon avis, c'est que je n'avais rien senti et je n'avais plus de sens de goût. J'étais 10 jours en quarantaine et je ne pouvais pas voir ma famille ni mes amis. Mais le plus important pour moi, c'est que je n'ai pas transmis le virus à quelqu'un d'autre.
La grande peur du Luxembourg était que la capacité des hôpitaux serait un jour épuisée, aussi bien au niveau du personnel qu'au niveau du matériel et des lits libres. Continuons donc notre conversation avec un élève infirmier.
Je ne suis pas seulement une personne qui a eu le virus, je suis aussi élève infirmier à l'école des professions de santé. Donc pour nous, cette pandémie est un sujet qui nous concerne directement tous les jours. Personne n'était prêt pour une telle situation parce qu'à l'école, nous nous concentrons sur les maladies normaux et quotidiennes dans les hôpitaux et ne pas à un tel virus où nous-mêmes ne savons que très peu. Maintenant, avec le déroulement de la situation, nous sommes en train d'être préparés pour combattre cette maladie et pour aider les gens qui ont besoin de nous. Le but est de contrôler la propagation du virus et de garder le nombre des infections le plus bas possible. Quand même en novembre, on comptait un maximum de 800 personnes infectées en 24 heures au Luxembourg.
En effet, il ne faut pas qu'on oublie que pendant la pandémie, il y avait aussi de nombreuses naissances. Beaucoup de mères avaient peur de la situation dans les hôpitaux, mais aussi des conséquences du confinement sur la vie de leurs enfants. Écoutons ensemble les expériences très personnelles d'une mère qui a eu son bébé au début du confinement.
Bonjour, et j'ai eu un bébé au début de la pandémie du coronavirus. Quand le confinement a été annoncé le 13 mars 2020, j'étais très très inquiète. Parce qu'en fait, j'avais peur des situations dans les hôpitaux. J'avais peur de devoir être seule au moment de l'accouchement. Je me suis maintenue active, donc j'ai fait des promenades. J'ai essayé aussi de m'occuper, de ne pas y penser vraiment beaucoup trop. Parce qu'en fait, je me levais, je regardais toujours sur les applications d'information, les nouveautés. Donc j'étais vraiment un peu obsessive même de toutes les informations qu'il y avait. Donc naturellement, vu que c'était mon premier enfant, ma première grossesse, donc il y avait aussi un premier accouchement. Donc j'avais pas vraiment d'expectatives au niveau de l'accouchement. J'avais pas vraiment peur. Mais naturellement, j'espérais que tout se passerait bien. J'avais toujours imaginé d'avoir mon compagnon à mes côtés, de pouvoir après présenter mon bébé à ma famille, à mes amis, donc d'avoir des visites. Mais malheureusement, à cause du coronavirus, ce n'était pas vraiment le cas. En fait, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance, vu que ma fille elle est née le 19 mars 2020. Et que à ce moment-là, la situation dans les hôpitaux n'était pas la même qu'avant. Mais il faut dire que mon conjoint était quand même avec moi pour l'accouchement. Et même le jour où elle est née, il a été à mes côtés donc, toute la journée. Il était avec nous. Donc au niveau de l'accouchement, on peut vraiment dire que tout s'est passé normalement. Il n'y avait pas d'obligation de porter un masque. Donc moi, mon conjoint, la sage-femme, personne n'avait un masque. Mais il faut dire que le lendemain, quand mon conjoint est revenu nous rejoindre à la maternité, il devait déjà porter un masque. Donc la seule chose qui était un peu différente, c'était au niveau des visites. Il n'y avait pas de visite. Vu que mon accouchement s'est passé donc, au début de la pandémie, je peux pas dire qu'il y avait une différence par rapport au comportement. Donc j'avais une sage-femme très très gentille, tout le monde avait beaucoup de patience et je voyais pas vraiment que les personnes étaient plus fatiguées qu'avant. Alors il faut aussi voir que le confinement a quand même aussi des avantages. Donc normalement les papas ont droit à 10 jours de congé lors de la naissance d'un enfant et dans notre cas, vu qu'on était tous confinés, il était plus longtemps avec nous à la maison. Donc ça, c'était très important. Donc il y avait aussi vraiment le temps pour le papa d'établir un lien. Donc avec sa fille, il avait beaucoup plus de temps que d'autres papas qui n'ont pas été papas pendant le confinement. Naturellement, il y a aussi des avantages. Donc au moment de la naissance de notre fille, on n'a pas pu la présenter à notre famille, à nos amis. Donc par la suite, ce qu'on a décidé de faire, donc on a vu les personnes à travers d'une fenêtre, donc les personnes venaient dans notre jardin et on se voyait par les fenêtres, on l'a présenté donc par la fenêtre, on se téléphonait. Donc il y a des choses négatives, il y a des choses positives.
Enfin, je vous raconte encore d'un événement qui m'a le plus marqué pendant toute cette période inhabituelle. En décembre 2020, je devais appeler l'ambulance pour mon grand-père, comme il était dans son lit presque incapable de respirer. Quand le docteur est arrivé, il a fait la diagnose du Covid-19 sans vraiment prendre en considération d'autres maladies comme par exemple une attaque cardiaque ou une embolie pulmonaire. Arrivé dans l'hôpital, mon grand-père devait faire un test pour vérifier s'il s'agit vraiment de Covid-19 et il a fait des exercices de respiration. 2 heures après, nous avons téléphoné à l'hôpital et on nous a confirmé qu'il ne s'est pas infecté avec le virus, mais qu'il a eu une embolie pulmonaire. J'étais vraiment fâchée comme le confinement a un peu provoqué que certaines maladies sont tombées dans l'oubli. La seule maladie présente au monde semblait être ce virus. La fausse diagnose du docteur avait comme conséquence que mon grand-père a subi une attaque cérébrale suite à l'embolie. J'étais de plus en plus fâchée et en même temps triste, comme c'était incertain s'il survivrait. Finalement, il a survécu, mais sa partie droite du cerveau se nécrossait entièrement. Le côté gauche de son corps est paralysé. Il était 5 jours sur l'unité des soins intensifs. Puis, il devait rester pendant 3 mois tout seul dans l'hôpital sans pouvoir voir quelqu'un. Avant cet incendie, mon grand-père était chaque jour chez nous. Il était presque comme notre père. Et d'un coup, sa vie et la nôtre ont complètement changé. Le Covid-19 nous a pris en quelque sorte notre grand-père. Comme rien n'est plus comme avant, il n'est plus la personne qu'il était auparavant. Il a souvent pleuré et se sentait seul dans l'hôpital. Après 1 mois, il a eu une chambre du côté de la rue. Donc nous nous sommes parfois rendus devant l'hôpital pour qu'il nous voie et en lui téléphonant. Pour moi, c'était si irréaliste et paradoxe. On est si proche d'une personne, mais on n'a pas le droit de se rapprocher. De plus, on est séparés par une fenêtre, alors qu'on avait l'habitude de se voir chaque jour. Aujourd'hui, c'est encore difficile pour lui d'accepter qu'il ne peut plus marcher, qu'il ne peut plus jouer avec nous et que c'est impossible qu'il retourne à la maison et donc chez nous. Les 3 mois, les médecins ont décidé que la meilleure solution pour assurer la meilleure qualité de vie possible serait pour mon grand-père de vivre dans une maison de retraite. Là, il aurait toutes les aides et soins nécessaires et il serait en compagnie d'autres personnes de son âge. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé encore d'autres conséquences tristes que ce confinement a provoquées. Au début, nous n'avions pas du tout le droit de visiter notre grand-père. Il se sentait isolé comme beaucoup d'autres habitants de la maison de retraite. Par après, l'horaire de visite a été limité à 45 minutes 2 fois par semaine. On peut rencontrer ses proches dans une salle spéciale avec 2 mètres de distance et toujours une fenêtre qui les sépare. Le vaccin, un sujet à discussion, représente après cette longue période de nouveau un peu d'espoir pour ces personnes âgées qui sont en même temps des vulnérables. Ils vivent dans la permanente peur de s'infecter avec ce virus. Ils risquent à tout moment de mourir. Un élève infirmier vous raconte maintenant un peu de ses expériences dans une maison de retraite pendant la pandémie.
En janvier, j'ai travaillé pendant 3 semaines dans une maison de retraite à Clairvaux. Tout s'est bien passé, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de changements concernant la vie quotidienne des personnes vivant dans cette maison de retraite. On remarquait un grand changement au niveau des règles. On imposait de nombreuses règles au niveau de l'hygiène, mais aussi concernant le port du masque. C'était difficile pour moi de communiquer avec mes patients à cause de ces masques. Mais ce qui m'a rendu le plus triste est ce que les personnes âgées ont souvent pleuré en me voyant. Ils se sentaient vraiment seuls et isolés du monde à l'extérieur de la maison de retraite. Les aides-soignantes étaient leurs seules personnes de contact pendant le confinement. Je les ai rappelées à leurs petits-enfants qu'ils ne pouvaient plus voir pendant une si longue période.
Mais après leur vaccination, les familles obtiennent de nouveau le droit de visiter leurs proches dans leur chambre, de se promener avec eux et en effet, ils sont protégés grâce à cette vaccination. De plus, on peut 5 fois par semaine rendre visite à ces gens. Moi, j'espère que ce vaccin est une solution pour que les gens se sentent de nouveau moins isolés et qu'ils ont de nouveau un peu d'espérance concernant leur qualité de vie. Pour conclure, on peut dire que ce virus qui a provoqué cette pandémie inimaginable avait des avantages, mais peut-être encore plus de désavantages. D'un côté, le Covid-19 a relié en quelque sorte les gens du monde entier. Car chacun de nous a vécu cette situation difficile et chacun a été confronté aux conséquences. Des conséquences qui étaient parfois fatales, comme la mort, mais aussi des conséquences moins graves, comme la fermeture des cinémas ou l'éducation à la maison. Je suis incertaine si le vaccin compose vraiment la solution pour le retour à une vie normale. Mais j'espère que bientôt chacun de nous peut reprendre ses habitudes. En effet, je me souhaite que cette pandémie inoubliable ait sa fin dans le proche futur et que nous reçoivent tous notre qualité de vie. Espérons que la solitude sera bientôt échangée avec la compagnie des amis. Restez optimiste et en bonne santé, car la santé est le plus important.